Mais comment en 2026, on arrive à créer un service numérique sans dérapage, que tout va bien, qu'on est capable de saisir comme il faut? Puis je dis ça pour le gouvernement, mais je pense que c'est bon pour toutes les grandes organisations. On a tous les mêmes problèmes partout. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'on est dans un monde qui est drivé par les IT, Daniel?
On commence par comprendre le besoin, ouais. Identifier le problème comme du monde. On s'intéresse aux clients, aux usagers, aux patients, peu importe comment on les appelle. On veut cerner le vrai problème. On va améliorer les façons de faire. Puis peut-être qu'après ça, on va penser à des solutions. Et certaines de ces solutions-là seront peut-être technologiques. Donc, je pense que c'est plus cette séquence-là à faire plutôt que de dire « On a un super package, une super solution numérique. » On pourrait essayer de le faire fitter avec une situation actuelle.
Comment ça se fait qu'on est encore dans un monde où, dès qu'on entend le mot numérique, on se dirige tout de suite vers les IT? « Va aller voir mon CTO. » C'est ça la solution. Et pourtant, Martin, tu nous parlais d'un rapport qui est sorti récemment qui dit qu'il faudrait qu'on fonctionne autrement. Là.
Bien, je pense qu'avant d'aborder les questions technologiques, puis c'est vrai que peut-être qu'il y a un réflexe peut-être un peu automatique de transposer numérique, technologie de l'information. Entre les deux, je rejoins le propos de Daniel, c'est qu'il y a une connaissance fine des besoins et des comportements et des attentes des usagers, des citoyens à faire. Et ça, c'est d'une part, accumuler des données probantes. Puis d'autre part, c'est d'être axé sur la notion de valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'on veut régler comme problème? Ça va être quoi les bénéfices escomptés, que ce soit en satisfaction, que ce soit en économie budgétaire? Donc, ça, pour moi, c'est important de faire ça de façon antérieure ou en amont des enjeux technologiques. Ensuite, les enjeux technologiques supportent le propos.
Ça devrait.
Ça fait en sorte que c'est un énorme virage à opérer. Cette idée de bien connaître les besoins des usagers, dans notre cas, des citoyens. Moi, je dis souvent qu'il faut accueillir les nouvelles pratiques, notamment les pratiques de consultation des citoyens, mais il faut abandonner les vieilles pratiques aussi. Et ça, c'est difficile dans un environnement avec un patrimoine qui a des dizaines d'années, l'idée d'accueillir des nouvelles pratiques, mais aussi d'abandonner des vieilles pratiques. Je donne juste un exemple. On fait beaucoup de sondages au gouvernement, dans des organisations aussi. Quand on fait des sondages, on va chercher davantage des opinions. Puis dans notre domaine, en design numérique, design de service, ce qui nous intéresse, nous, c'est des observations du comportement des usagers, non pas leurs opinions.
Ou les deux,
pas qu'on s'intéresse pas aux opinions, mais souvent, les gens sont pas 100% conscients de leur propre expérience, combien de temps ça prend à réaliser une tâche, où est-ce qu'ils ont rencontré des difficultés, à quelles étapes. Ça, on le fait par observation. Puis ça fait partie des nouvelles pratiques à adopter.
Puis les sondages, c'est peut-être pas le meilleur outil qu'on a non plus. C'est pas le
sondage focus group non plus. On va chercher beaucoup d'opinions. Donc, ça se fait beaucoup. Fait qu'il y a toujours une perception qu'on consulte beaucoup les citoyens, mais je pense que progressivement, il faut le faire de la bonne façon.
Aussi. Oui, mais je pense que le sondage peut être aussi qualitatif. Là. Mais c'est sûr que d'aller creuser le besoin, de bien le comprendre, puis aussi, et je pense qu'un des problèmes auxquels on fait face le plus souvent, c'est que, on en parlait tantôt, c'est qu'il faut convaincre la haute direction de ce qu'on fait. Sinon, ça va devenir un show, une solution qui va être gérée par les TI, on revient tantôt. Les TI, eux, ils veulent résoudre un problème. Puis aujourd'hui, ils ont des outils pour aller encore plus vite. Ils vont rentrer dans le mur plus vite. C'est juste ça. C'est rien que ça. On parle d'IA, on en parlait tantôt sur l'heure du dîner. C'est une bonne idée, mais tu vas juste rentrer dans le mur 10 fois plus vite. Tu sais, quand on parle de transformation des organisations, on va même peut-être essayer de limiter le mot numérique une seconde. De transformation des organisations, c'est un de s'intéresser à notre clientèle, on s'entend, on en a parlé tantôt, s'intéresser à nos employés, à s'intéresser à nos façons de faire, puis les revoir.
Fait que là, parce qu'il y en a de la connaissance à l'intérieur d'un ministère, à l'intérieur d'une organisation, il y a des gens qui sont là, qui savent.
Les employés qui sont en première ligne ou qui font les opérations, là,
support
ils
à la clientèle,
savent c'est quoi. Là, ils savent que celui qui traite des formulaires, là, qui fait des ce qu'on appelle un traitement administratif, là, pour redemander un complément d'information ou qui le met sur une autre pile, il sait pourquoi ça ne fonctionne pas dans ce formulaire-là. Ce sont des intrants importants, mais rarement on va les consulter, ces gens-là. Donc, on a accès à ce savoir, mais on ne les consulte pas. On a accès à ce savoir, puis on n'en prend pas acte. Puis ces gens-là veulent juste ça nous dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas en passant. Là. Fait que pourquoi on ne leur parle pas? On parle du gouvernement, c'est la même affaire d'une grande entreprise. Là. T'sais, on dit gouvernement, ça pourrait être une grande entreprise avec des dizaines ou des centaines de milliers de personnes. C'est la même dynamique. Fait on peut-tu juste prendre le temps de regarder c'est quoi le besoin, le problème, le contexte?
Et pourquoi
ce
on le fait
pose
pas?
Problème?
Pourquoi on le fait pas? Il y a une peur d'aller voir les gens. Je veux dire, on sait que nos, à l'intérieur d'un ministère, à l'intérieur d'une organisation, les gens qui sont là, ils sont là depuis 30 ans. À la fonde, machin, si tu veux avoir ou rajouter quelque chose dans un formulaire, va consulter les gens qui sont dans le bois, va consulter les gens qui sont dans l'usine. Mais on dirait qu'on a, on a une peur intrinsèque d'aller voir les gens, les humains. Ça, ça revient à ce qu'on fait de
bien sûr,
nous, mais qu'on n'arrive pas à convaincre nos clients d'aller là. Ça fait 30 ans, Daniel, plus que 30 ans que tu es là-dedans, puis moi aussi. On n'arrive pas encore à faire comprendre à bien des organisations que ça vaut la peine. Puis tout à l'heure, tu ne l'as pas mentionné, là, Martin, mais le rapport de quelle organisation disait qu'il fallait... Ça devrait être ça.
C'est l'Autorité des marchés publics.
Quand même, qui ont soulevé cette problématique-là ou ce point-là de dire, avant de vous lancer vers la technologie, analysez, prenez le temps de regarder le travail du terrain, de ce qui se fait sur le terrain.
Puis d'autant plus que si on le faisait, là, on s'apercevrait peut-être que le problème serait plus simple qu'on l'imagine. Peut-être que c'est en amont, là je vais parler gouvernemental 30 secondes, mais si on simplifiait des lois, ça se fait. Si on simplifiait des procédures, des normes, des règlements, des mesures, des ci, des ça, peut-être que les systèmes informatiques qui les implantent seraient beaucoup plus simples aussi. Là. Fait qu'à l'intrant, on imagine des mesures, des lois, des ci qui sont hyper complexes. Je me disais, ça ne peut pas arriver avec un système simple en bout de ligne. À l'intrant, c'est hyper compliqué. Et souvent, je lisais une étude qui avait été écrite par... je pense, la directrice des TI à l'époque Obama aux États-Unis, puis disait, les décideurs n'ont aucune conscience de la complexité des TI. Nous autres, on imagine ça, faites-les. Fait qu'il y a ça aussi. Fait que les TI sont parfois perçus comme des preneurs de commandes, fait qu'ils ne se posent pas plus de questions. Dépendant d'où vient la commande, soit que ça vient d'un politique ou d'un haut dirigeant, ben fallait un peu ta gueule.com, hein? Si c'est moi qui décide, c'est toi qui vas le faire comme ça. Fait que peu importe ce que les gens vont dire, non, mais il y a ça pareil comme élément. De notre côté, ben des fois, les pays disent, ben nous, on connaît ça. Parce que ça fait des années qu'on fait ça, puis c'est de même que ça marche. Oui, mais ils continuent à mécaniser ou à informatiser un processus qui est peut-être obsolète, inutile.
Moi, je pense que je sens pas, moi, de résistance. Un peu comme tu sembles l'exprimer, une résistance à adopter la perspective des usagers. Moi, je pense...
Non, c'est pas tout à fait ça. Moi, je dis qu'ils ils ont peur d'adopter la perspective, oui.
Je pense
d'aller
pas
les voir réellement, c'est quand même autre chose. Là.
Moi, ce que j'ai eu comme expérience, c'est que c'est pas une résistance comme telle ou une peur. C'est juste une méconnaissance toute simple.
Une culture.
Une culture. Puis
oui,
là-dessus, tu sais, la communauté, appelons ça comme ça, j'étire le concept, là, mais la communauté design UX a aussi... un repositionnement à faire parce que
absolument.
Oh oui, les gens qui expriment le point de vue des usagers, il faut qu'ils arrivent à parler le langage des décideurs en termes de valeur ajoutée. Puis ça, c'est pas toujours...
Le langage des affaires.
C'est pas toujours fait. Donc, on arrive à cerner les besoins des clients, des usagers, mais on traduit mal, je crois, dans beaucoup de cas, la valeur ajoutée escomptée de ce qu'on constate comme problème. Fait que, tu sais, je pense que c'est un ensemble de facteurs qui fait que ça se fait pas autant qu'on voudrait. Mais je pense pas que ce soit de la résistance ou de la peur.
Non,
moi,
non.
Quand on sonde une problématique, on illustre un problème, quand on fait, mettons, un tout petit clic, un clip de 10 secondes d'un test utilisateur, on voit un usager en train d'hésiter, cliquer à gauche ou à droite, puis prendre une éternité avant de réaliser une tâche simple sur un système. Si on diffuse ça dans une réunion avec 20 personnes, excessivement efficace, parce que là, les gens s'obstinent plus entre eux en disant « ben moi, je pense qu'ils vont cliquer à gauche. Non, je regarde mon jeune, puis je pense qu'il va cliquer à droite. » Là, les gens, tout le monde constate la même chose.
Je pense
qu'on est extrêmement éloquent.
Le citoyen
fait ça, peu importe ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu penses qu'on a toujours fait de pas correct, peu importe même les sondages. Là, on montre un clip de 5 secondes. Alors, c'est un exemple de démonstration d'un problème. Puis,
tout à fait.
By the way, la façon...
Et peut-être qu'on a trop focusé sur nos méthodes puis sur notre vocabulaire. Dans ce, on va faire ça, on va faire ça. C'est un peu abstrait, là. Mais si on montre... Je suis d'accord avec toi, Martin, si on montre les résultats, justement, l'extrait vidéo en est un, des photos... je me rappelle, moi, on a fait une enquête pour un autre projet, un grand projet, puis sur le terrain, fait qu'on avait pris avec nos téléphones, c'est facile, hein? 300 photos, puis là, tu montres le contexte, puis tu montres des courtes vidéos. On avait tissé un mur pour montrer aux clients payeurs, regarde, c'est ça la réalité. Mais fait quand même, qu'est-ce que c'est ça?
Puis, ben,
Fait qu'on n'a pas parlé d'enquête contextuelle, non. ni d'observation in situ. Là.
Ouais.
Oh, regarde ce qu'on a vu. Fait que là, tu sais, dans ce temps-là, il y a souvent un petit, ce que j'appelle un what the fuck moment. Là. Fait que là, tu sais, qu'est-ce que c'est ça?
Que, hein? C'est un moment, je pense, où ça fait tard. Moi, je l'ai vécu dans le cadre de la ville de Montréal où ça faisait 2 ans qu'on s'ostinait sur, à l'interne sur l'architecture d'information de ce qu'allait devenir le site de la ville de métro. C'était à la même époque que tu as sorti la première itération de Québec.ca, d'où on s'était inspiré, puis on s'était dans le continuum du site Grande-Bretagne aussi, où il y avait, ouais, tout était organisé.
Par...
Mais pour arriver à faire ça, comme toi, ouais, nous, on a dû descendre sur le terrain parce que ça s'ostinait depuis 3 ans à dire « Ah non, mais il faut que ce soit le politicien en avant, telle affaire, puis la mairie, puis les lois. » Non! Les citoyens, ils voulaient ces informations-là.
Ça, c'est intéressant, ce que tu dis, Jean-François, parce que nous, dès le départ, on n'a pas voulu entrer dans les débats internes à propos des...
Moi, je suis arrivé dedans, fait que j'ai
donc,
pas eu le choix.
On n'a pas voulu le faire nous-mêmes avec des post-it là, dans notre bureau,
ouais,
comme expert.
Ouais, ouais.
On n'a pas voulu...
Non, ça aurait été pire.
...faire un... sonder les gens à l'interne. On a fait un exercice avec des citoyens, un tri de cartes. Il y avait comme 300 quelques citoyens. Puis c'est eux qui nous ont dit comment organiser le contenu. Puis quand tu fais ça dès le départ, tu sais, on écrivait dans notre stratégie, on veut se tourner vers les citoyens, on veut prendre des décisions basées sur des données probantes. Premier geste qu'on fait, il faut toujours bien qu'on soit conséquent avec nos pratiques.
On l'entend souvent par ailleurs, ça. Pis, on est orienté sur nos citoyens, on est orienté sur nos utilisateurs.
Exactement.
Pas toujours.
Quand tu le fais de la bonne façon, bien, après ça aussi... Tu sais, jour 1, le 5 juin 2018, quand on a publié Québec.ca, dès le lendemain, on commençait à avoir toutes sortes de demandes en disant, bien, est-ce que je pourrais avoir mon thème à la page d'accueil?
Ma photo, photo
moi,
d'un ministre.
Mon contenu, il faudrait qu'il soit dans tel thème,
non,
mais il faudrait qu'il s'appelle comme ça parce que nous, on a notre jargon.
Mais tout était couvert.
Ça nous permettait de dire non.
Ouais. Ouais, oui, il y avait ça aussi.
Ouais.
Mais ça, c'est souverain, puis ça prend ça à un moment donné pour faire, effectivement, arrêter la politique à l'interne.
Mais si on n'a pas nos données, probablement, nos preuves,
ouais,
bien là, on a juste notre expertise. Puis,
c'est ça. Puis je pense que
pour
c'est...
convaincre, c'est pas...
Puis c'est drôle parce que l'expertise, ça arrive dans plein de domaines, elle ne semble pas reconnue. Il y a ça aussi. Des fois, les gens arrivent avec une opinion. Oui, mais c'est ça, à un instant.
C'est ça, quoi? Est basé sur quoi?
Est basé sur quoi? Donc, je pense qu'on a un travail à faire d'expliquer notre démarche, comme tu disais, Martin, tantôt, la vidéo, c'est un exemple. Comment on s'y est pris, qu'est-ce que ça a donné, voici ce qu'on a appris de ça, voici pourquoi on est arrivé à telle solution. Souvent, on arrive avec, on présente un concept, mais la personne dit « j'aime pas ça », la personne, on est fait. Non, t'sais, on présente le plus tard possible. Mais expliquer le raisonnement en arrière qui a mené à cette solution-là. Mais là, c'est une question de reconnaissance de l'expertise, de la reconnaissance du métier. On n'est pas comme des médecins. Encore là, les médecins, ils se font parfois challenger, non? Mais tu sais, ou les gens de pays, ils font, les gars de sécurité, ou les filles de sécurité. Ah! Sécurité dit ça. Il faudrait qu'un jour, on en vienne peut-être à ça, à ce que notre travail soit reconnu aussi comme étant aussi valable. J'ai rien contre la sécurité en passant.
Il y a la reconnaissance d'expertise, mais aussi, il y a une notion de... d'oublier un peu notre statut d'expert.
Oui, notre
égo. D'être des porte-parole des besoins des citoyens.
Fait que
ça aussi, ça peut être problématique là, de se substituer en tant qu'expert, dire ben, on pense qu'on comprend nos usagers,
mais c'est
si on se place plus...
C'est le danger d'un moment donné d'arrêter, même nous, en tant qu'experts de ça ou spécialistes de ça, d'arrêter d'écouter les gens sur le terrain. Puis c'est vrai qu'aussi le marché nous a positionnés comme ça. Il y a une jeune dernièrement qui me disait, une jeune UX, qui me disait, ben moi, mon patron vient me voir en me demandant ce que les utilisateurs vont en penser. Comme si j'étais la détentrice de l'information, ce qui n'est pas le cas. Mais c'est ça qu'on a discuté avant, dans les dernières années aussi, dans le domaine.
Mais c'est parce que nous, normalement, les gens de UX, CX, peu importe, on maîtrise les outils, donc les techniques, pour aller chercher cette information-là. On va se faire accompagner d'autres personnes quand on ne le connaît pas, là. Mais on est des spécialistes de la cueillette du besoin, de la compréhension, de la modélisation, des techniques de connaissance de l'utilisateur. Ça donne qu'on connaît des pratiques universelles de design. Ça ne veut pas dire que la solution est parfaite. Il faut qu'elle soit conçue en fonction des besoins du client. Mais il y a quand même un savoir, là, tu sais, je veux dire, minimiser la charge mentale, la simplification, prévention des erreurs, je veux dire, ça a été documenté au milieu des années 80, c'est encore bon aujourd'hui.
Oui.
Mais le piège, c'est qu'on se substitue, qu'on devienne, ou qu'on soit perçu, comme tu disais tantôt, comme le substitut, le représentant de l'utilisateur. Non. Moi, j'avais travaillé sur un projet, un des premiers projets de transformation numérique au gouvernement du Québec, c'est la demande de rente de retraite en ligne. Et je me rappelle d'avoir fait quelque chose pour... qu'est-ce qu'on avait fait? Aussi, justement, la demande de rente de retraite en ligne, on a fait des tests d'utilisabilité, on avait rencontré des vraies personnes de 60 quelques années et plus, pour s'apercevoir que, oh, dans notre tête, oh, les caractères sont un petit peu trop petits. Fait que là, on va peut-être gros, tu sais, mais ça a l'air stupide.
Eh oui,
mais,
oui, non,
on n'y avait juste pas pensé.
On est là, là.
On était là, on était en 1999-2000.
On est pas loin.
Et tu sais, ça fait 26 ans, là. Fait que là, on a fait ça, on grossit ça. Tu sais, on a peaufiné quand même les maquettes. Puis je me rappelle avoir présenté ces maquettes-là à la haute direction. Puis il y a quelqu'un qui a dit, hey, c'est donc bien gros, ça. Moi, je trouve pas ça, je trouve ça bien trop gros. Mais j'ai dit, excusez, c'est parce que vous n'avez que 35 ans. Quand vous serez avec des foyers où vous aurez 60 ans et plus, peut-être que ça sera peut-être pas assez gros pour vous. Pour qui est-ce qu'on le fait? Fait que là, de toujours ramener cette dimension-là de... Et ça aussi, c'est un autre des problèmes, c'est qu'on perd très rapidement le fil de pour qui on fait ce projet-là? Ah, pour le client. Tout le monde. Je veux dire, tout le monde est pour la soie dentaire en passant. Là, je veux dire. Mais tu sais, je veux dire... Non, mais on est d'accord.
Mais combien l'utilisent?
Mais une chance.
Fait que là, on le dit, oui, quand on sort du oui, je vais passer ma soie dentaire. Puis après ça, on l'oublie. C'est la même affaire avec le client.
Ouais.
Fait qu'on est tout pour le client, tout pour le client. Puis après ça, oups, ah, mais là, moi, je préfère ça. Oups, là, ça devient, oups, le projet, là, c'est plus ça qu'on avait imaginé. C'est quoi ça, cette histoire-là? Fait que c'est notre job aussi de ramener cette dimension-là, cette voix du client-là, par les différentes techniques qu'on a, par les sondages, les trucs de cartes, peu importe, les évaluations de sites web, la rétroaction, le feedback, la cybermétrie du côté du numérique. Regarde, c'est ça les chiffres qui nous disent. Garde des faces, c'est ces gens-là qui font ça. Regarde, là, rendu là.
Ben moi, je les prenais littéralement, je faisais des foam cores, je mettais des photos.
Ben oui.
Générique, mais en disant ça, c'est Manon, 55 ans, citoyenne de la ville de Montréal, et j'allais mettre ça dans le département des développeurs.
Ben
et
oui.
Surprenamment, ils me revenaient des fois en me disant, « Hey, tu sais, Janine, j'ai fait un feature, je voudrais te le montrer, parce qu'elle saurait l'utiliser, ça l'aiderait.
Ben, » En 90, je reviens, Régie des rentes, Retraite Québec aujourd'hui, on avait fait des personas, ce qui était quand même révolutionnaire à l'époque, mais on avait développé, c'était pas des personas comme aujourd'hui, hein, c'était pas aussi évolué, mais n'empêche que dans la documentation, on parlait justement, je pense que c'était même Janine ou je sais, Géraldine ou peu importe, qui faisait telle affaire. Puis c'était ça dans la documentation fonctionnelle des informaticiens, c'était ça dans les communications, pour pas perdre de vue pour qui on faisait le travail. Parce que le son était parfait, non. Mais est-ce qu'on était centré client? On était quand même dans les précurseurs.
Mais tu sais, tantôt, Martin, tu parlais du fait que tu n'as pas l'impression que les gens ont peur de
non.
parler aux citoyens, mais je vois aussi apparaître beaucoup dans des grandes organisations au Québec le subject matter expert. On pense avoir trouvé la solution. Ça, c'est la voix du client. C'est un monteur de ligne ou c'est un comptable, puis ça fait 10 ans qu'il est retraité, mais c'est quand même quelqu'un qui connaît le métier. Puis on se dit, c'est lui qu'on va aller voir pour avoir toute l'information sur ce qu'on a besoin pour le projet, ce que je trouve qui est un piège.
Bien, je pense
on est toujours dans ce raccourci-là.
On a une partie de l'histoire, mais je pense qu'il faut combiner plein de sources de...
Mais oui, mais ça reste quand même ça.
On parlait de cybermétrie. Il y a un truc... Oh, parce que j'en reviens encore à employer les bonnes pratiques. Parce que c'est vrai, dans les organisations, tout le monde pense aux clients. Tu sais, moi, au gouvernement, il n'y a personne qui ne pense pas aux citoyens.
C'est clair.
Mais... Il faut employer les bonnes techniques.
C'est abstrait en même temps, le citoyen.
Oui, mais c'est pour ça qu'il faut employer les bonnes techniques. Puis j'ai vécu la chose dans une autre vie où on avait fait un groupe de discussion pour faire un diagnostic de l'efficacité d'un site web. Puis on avait pris ensuite les participants du groupe de discussion puis on leur a fait passer un test utilisateur individuel. Alors, les mêmes individus, les mêmes participants... Dans le groupe de discussion, tout le monde est poli dans le groupe de discussion. Il y a des dynamiques de groupe, il y a des... Alors, il n'y avait pas de problème. Tout allait bien.
C'est pour ça qu'on consultez en fait
la carte, moins, ouais. Tout va bien. Le site est très convivial. Mais, tu sais, c'est quand est-ce qu'on visite un site web en groupe? On ne fait jamais ça. C'est une démarche individuelle. Quand on a fait des tests utilisateurs, là, on rencontrait toutes sortes de problèmes. C'est les mêmes personnes.
C'est
alors,
clair.
Ça, pour nous, ça a été très éloquent.
Des bonnes méthodes.
Savoir... Oui, il faut consulter les citoyens, mais il faut le faire de la bonne façon.
C'est pour ça que les tests, je m'excuse, mais les groupes de discussion, pour moi, c'est pas une technique fiable de mesure.
Absolument pas.
De connaissance du clientèle
non.
dans le domaine dans lequel on travaille. Peut-être pour choisir, je dis n'importe quoi, là, une couleur de voiture ou une boîte de céréales. C'est un raccourci intellectuel peut-être un peu trop violent, là, mais parce que le focus group va te ramener des opinions. Nous, ce dont on a besoin, c'est des observations. On veut faire du... design basé sur des faits, sur des chiffres, une méthode rigoureuse. C'est pas au pif, là. C'est pas scientifique. C'est pas sur de la... C'est-à-dire, c'est scientifique. C'est pas sur de la supposition. Ce sont des méthodes rigoureuses avec tant de personnes qu'on a interviewées. Si on fait un sondage, il y a un statisticien qui est passé par-dessus sur les données pour s'assurer qu'on a tout ce qu'il faut. On a fait des tests d'utilisabilité, on a bien choisi les candidats, on a pris des photos, on a documenté énormément, on a présenté les...
Oui, mais Daniel, ça coûte cher.
Non, ça coûte...
Non, non, ça coûte pas cher.
Oui, c'est...
Nous, on fait appel à des citoyens quand on fait un test. Les gens participent gratuitement, de bon cœur.
Oui, hein, en plus. Puis... Ils sont même touchés de participer.
Ben oui, tout à fait.
J'améliore quelque chose qui va me servir, moi, en tant que citoyen, après.
Oui, oui, oui.
On avait la même réaction.
C'est pas des tests qui sont longs non plus. Mm.
Non, puis c'est...
Bon, mais c'est la perception. Moi, je disais en blague.
Oui,
mais c'est,
tout à fait.
Ça reste la perception à haut
mais
niveau.
Tu as vu le projet de 50-100... Mettons 50-100 millions, là, c'est rendu... J'ai entendu dire l'autre fois que c'était rien 100 millions là, d'une commission. Ah, juste 100 millions. Enfin, bref. Donc, on travaille sur des projets comme ça. On n'a même pas 20 000, 30 000... Mettons 100 000. Mettons 100 000. C'est pas énorme, là. On n'a pas 100 000 pour faire un job correctement. Puis dans les faits, là, moi, j'en ai jamais fait des mandats de recherche comme ça. On est capable de faire de quoi en 5 jours, si tu veux. Tu sais, c'est du time boxing, là. T'en veux pour combien? Mais en 5 jours, on a... Non, mais c'est comme quand j'étais petit qu'on allait au dépanneur. Là, quand j'étais petit, on voulait pour 25 cents de bonbons. Il y en avait en tabarouette dans mon temps. Fait que là, la madame, elle mettait 25 cents. Mais c'est ça. Fait qu'on en a pour 5 jours, on en a pour 10 jours, on en a pour 20 jours. Évidemment, on essaie de faire les choses correctement, mais on est capable de faire de quoi de très bien en 20, 30, 40 jours personne. Puis là, on est prêt à cheaper là-dessus. Mettons là à 1000 piastres
par jour. On parlait culture en début de conversation.
Je m'excuse de dire ça, Daniel, mais c'est possible aussi de faire ça à l'interne.
Ben oui, mais non, mais je sais.
Soi-même.
Ben je sais.
Et pour pas cher, puis c'est souvent beaucoup moins compliqué qu'on pense faire
bien
des
sûr.
Des
si c'est dans la culture, si tu as des gens à l'interne pour réussir à le faire, c'est parfait. Puis ça m'amène à la prochaine question. Comment on le maintient, ça? Parce que souvent, nous, toi, moi, Daniel, on est en pratique privée, donc on est appelé en début de projet, et des fois, le projet part pendant un an après. Comment on maintient, enfin, on devrait le maintenir, mais comment on le maintient dans une grande organisation, cette vision d'un projet simple? Là, ça fait quoi? Tu es en la sixième année, cette version du site de Québec.ca?
Ça fait 8 ans.
8 ans déjà?
Ouais.
6?
2018? Ça, 2018.
En 2018, d'accord, donc 8 ans. Donc, en 8 ans, tu as réussi à maintenir quelque chose et même à rapatrier tous les sites périphériques à Québec.ca. Comment on arrive à maintenir ça?
Mais
moi,
je
parlais un peu avant, là, je pense que le
je pense que l'essentiel, c'est de toujours continuer à faire des tests, toujours continuer à analyser nos données. Tu sais, par exemple, nous, on a... Il y a 1,2 milliard de pages vues sur Québec.ca.
Quand même.
Imaginez toute la quantité de données bien que ça sûr. Génère. On analyse ça, on fait des tri de cartes. On a fait près de 160 opérations de tests depuis 2018, 2017 même. Fait que l'idée, c'est comment on maintient ça? Bien, on n'arrête pas d'en faire. On n'arrête pas d'accumuler des analyses, des données. Puis maintenant, avec l'IA, bien, peut-être que ça va faciliter l'analyse de données massives. Un peu plus. On va mais peut-être vraiment. Voir des choses dans nos données qu'on ne voyait pas avant. Fait que je pense que ce qu'il faut, c'est en faire au début d'un projet, c'est sûr, mais il faut maintenir cette cadence-là.
Oui, puis la recherche.
Puis on a la chance, nous, d'avoir une équipe dédiée pour
ben
ça.
Oui. Tu as du volume en plus.
Oui.
C'est extraordinaire.
Oui.
Une clientèle captive, ce qui est excellent. C'est pas un défaut, mais tu sais, t'es certain que tu vas toujours avoir du bon.
Ouais.
C'est extraordinaire. Mais tu sais, pour répondre à ta question, Jean-François, il y a aussi le fait que il y a beaucoup de gens qui disent, c'est la même affaire, moi je suis passé du UX, je fais plus de CX maintenant, mais tu sais, on fait une recherche client, c'est la même affaire, elle fait check. Non! Ton client, il évolue, là.
Exact.
Juste reculons un événement pas si lointain. Le client avant pandémie, après pandémie.
La culture a changé
la
complètement.
La culture a changé deux. Complètement. Ouais. Bon, fait que tu veux suivre l'évolution de ta clientèle en temps réel. Fait que, oui, tu vas faire de la recherche qualitative, quantitative, mais tu vas continuer à faire ta voix du client. Tu veux continuer d'écouter tes employés quand ils vont te raconter ce qui continue de bien marcher et ce qui ne marche pas, parce que tu es en amélioration continue par définition, parce que tu n'auras pas réglé 100% des problèmes qui vont être énoncés dès du premier coup. En tout cas, j'ai jamais vu une organisation.
Mais c'est pas le but non plus.
Hein?
Le but, de toute façon, on ne s'attend pas à ce que tout soit réglé à 100%.
Ben non, on va
y aller graduellement.
Pas,
par exemple. Il faut
ben
continuer.
On est en perpétuel. C'est un mouvement perpétuel. Je reviens sur les personas qui est juste un moyen de documenter la clientèle. Il y en a d'autres moyens. Des fois, les gens disent oh, on a fait des personas de 5 ans, sont plus vrais. Ben c'est sûr qu'ils sont plus vrais. Normalement, ton persona, il est vivant, lui-là.
Mais tout produit numérique devrait avoir...
Il devrait s'alimenter, être mis à jour.
C'est ça.
Puis là, il y a des personas synthétiques maintenant, là. Fait que tu comprends. Là,
ouais,
tu vas l'avoir en temps réel.
Personnage synthétique ou persona synthétique.
Non.
On en vient à l'usage de l'IA. L'IA change le comportement de l'usager, change sa façon de chercher de l'information puis de trouver de l'information.
Bien sûr.
On va dans des outils autonomes où on obtient plein de réponses. Il y a les aperçus IA dans Google aussi. Fait que là, ça, il faut le savoir, ça, quand on prépare nos contenus.
Bien sûr.
Il faut comprendre deux choses, en fait. C'est que les gens viennent moins sur notre site web, la fréquentation est en baisse. Pourquoi? Parce que les gens obtiennent beaucoup de réponses, mais à force de faire des tests, puis il y a celui qui a fait un test que je vois, là, qui a déduit que pour certaines catégories de contenus, les gens viennent moins sur Québec.ca. Les contenus généraux.
Puis c'est une tendance qui va s'amplifier.
Oui, puis si c'est des contenus en lien avec un service, là, ils viennent sur Québec.ca.
Bien sûr.
Donc, si on ne peut pas avoir ce discernement-là,
ce qui veut dire
cette connaissance-là, si on ne fait pas d'analyse puis de test, donc l'idée, c'est de dire, bien, notre citoyen, c'est une cible mouvante, avec un comportement qui évolue.
Oui, avec une technologie qui, tu sais, on parlait pas d'IA, on en parlait un peu, mais pas tant que ça. Là, je veux dire, c'est rendu en... Qu'est-ce qu'il y avait comme... J'ai tombé sur comme statistique, je pense que c'est 30% de la... En clientèle, on parle pas d'entreprise, on parle pas de gouvernemental, là, mais en entreprise. On disait avant, 80% des gens magasinent sur le web avant d'aller en magasin. Maintenant, on est à 30-40% des gens qui demandent à l'IA des conseils avant de choisir un magasin. Puis, sais-tu quoi? Je fais ça, là, moi,
la
aujourd'hui.
La conversation a lieu ailleurs, maintenant.
La conversation a lieu ailleurs, mais il faut que tu ailles le contenu web pour y répondre. Puis, ça te prend les avis, ça te prend... L'IA va se baser là-dessus aussi pour te faire une recommandation.
Bien, l'IA, c'est... Notre site devient un intrant à l'IA.
Exact. Oui, oui.
Mais on ne sait pas dans quelle mesure. C'est ça qui est notre drame. Oui. On le sait, puis selon le sujet. Des fois, il y a des sujets que juste le gouvernement qui aborde. Fait que c'est sûr qu'on est la source unique. Mais ça aussi, ça amène toutes sortes de notions de GEO, maintenant qu'on parle au lieu du SEO, pour la visibilité de nos contenus dans les engins d'intelligence artificielle.
Des fois, l'IA est niaiseuse un peu aussi, parce que tu parles français, présume que tu vis en France, fait que tu as des normes de France. Tu dis, non, je suis au Québec, mon grand. Ah, OK, excusez-moi.
Donc, nous... Elle est niaiseuse pour l'instant, mais comment vous êtes en train de vous équiper, vous? Vous avez des réflexions là-dessus sur le
fait que... On a des réflexions sur la meilleure façon.
La conversation se passe ailleurs.
Oui.
Et on est le dépôt quand même de cette information validée.
Ben, en fait, on essaie d'avoir des données ou une lecture sur la façon dont l'IA consomme nos contenus.
Et c'est possible?
Bien, c'est une boîte noire pour l'instant.
Ouais,
c'est pas possible.
Pourquoi
on est conscient qu'elle le fait, mais on voit les robots venir.
Pourquoi j'ai pas d'agent conversationnel .gouv.qc.ca? C'est ça que je veux, moi.
C'est la prochaine question.
On l'a testé durant la pandémie. On avait
un
agent conversationnel, mais c'était pas... De l'IA générative. C'était de l'IA quand même, là, mais...
Ouais. Mais on avait eu la même réflexion en même temps que vous à Montréal.ca.
Ouais.
La technologie n'était pas encore là.
Non.
Mais une des variations du site de Montréal.ca, la question était, pourquoi pas... Parce que d'un côté, un citoyen, qu'est-ce qu'il fait? Ou il appelle le 311 et les gens vont lui donner des réponses. D'ailleurs, à l'époque, ils n'avaient pas de protocole de réponse. C'était ad lib. Puis de l'autre côté, le site, avec ses 5 000 ou 12 000 pages de contenu. Mais 12 000 pages de contenu! Moi, j'ai parlé à des gens d'affaires qui disaient, mais où est-ce que je trouve l'information là-dedans réellement? Il y a des programmes un peu à droite. Pourtant, on a fait un gros effort comme vous. Il y a 12 templates à la Ville de Montréal. Tout le reste, c'est réparti aussi. Il y a des arrondissements, il y a quelques complexifications là-dedans. Mais les gens ne trouvent pas nécessairement tout le contenu. Mais dans l'AI, maintenant, il va dire, OK, c'est quoi les programmes qui sont destinés à moi, un homme d'affaires, qui fait tel commerce? Boum, 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 il va lui sortir ça d'un coup.
Moi, je pense qu'une partie de l'enjeu, ça s'applique aux municipalités aussi, c'est que on a des contenus qui concernent la santé et la sécurité des gens.
Fait que, il y a plein de choses.
Il y a un certain risque là, d'hallucination de l'IA.
Oui, c'est clair.
Mais c'est à l'étude.
Le
gouvernement britannique étudie ça.
Ah oui.
Remplacer son moteur de recherche dans le site web par un agent IA spécialisé dans les contenus gouvernementaux. On surveille ça.
On est à un jet de pierre d'effectivement rentrer dans un site qui est purement une conversation.
Oui. Puis c'est d'ailleurs une des conclusions. Durant la pandémie, quand on a essayé le robot conversationnel, on s'est dit, la technologie n'est pas encore là, mais c'est la voie de l'avenir. Bien là, on est peut-être rendu proche de l'avenir.
Puis tu sais, je veux la même... On parle du gouvernement, mais je veux la même affaire si je suis chez IKEA, là. Je veux dire, si je cherche la pièce du robinet, machin et truc, où est-ce que je peux l'avoir? Essaye pas de trouver ça sur le site web, là. Ça marchera pas, là. Mais il y a tellement de contenu. Il faut que tu appelles au service à clientèle pour trouver la réponse.
En tant qu'humain, trouver une réponse sur 12 000 pages de contenu, c'est
énorme.
Sur la
santé, là, on comprend.
Mais c'est relatif, ça. Nous, on a 15 000 pages, mais les gens n'arrivent pas sur la page d'accueil puis ensuite naviguent dans les différents contenus. Il y a des façons, des stratégies de recherche d'informations pour les citoyens. Souvent, nous, on a l'espèce de notion de zéro clic, là, tu sais... Les gens arrivent dans Google, puis ils cliquent dans Google, mais ils arrivent à la bonne page, puis ils naviguent pas. T'sais, on le voit, ce comportement-là. Fait que, t'sais, c'est pas toujours une fonction...
ils viennent là, ils retournent sur Google pour la seconde page.
Oui, puis ils font plusieurs itérations de recherche.
Ouais.
Donc, c'est pas toujours... le nombre de pages, c'est pas un enjeu tant que ça. Les gens sont pas devant 15 000 pages.
Non.
Ils ont quand même des techniques qui amènent, amènent à la bonne place.
Mais le client ne veut pas naviguer, il veut trouver l'information qu'il cherche. La navigation, c'est un moyen pour trouver. Mais je te suis. Mais tu comprends, ça s'est beaucoup amélioré. Là, si tu regardes au gouvernement, là, avant, il fallait se promener à différents endroits. Là, grâce à go.qc.ca, là, c'est centralisé. Là, c'est tout au même endroit. Ça aide beaucoup. Mais moi, là, que je rentre par un nuage de mots, par des mots, par des catégories, peu importe, c'est rien qu'un moyen pour trouver du contenu. C'est pour ça que Google donne bien le premier moteur, la première porte d'entrée. Puis là, mais il va m'amener vers des pages. Fait que je vais naviguer dans des pages, puis il faut que je me tasse la tête. Si j'ai un agent conversationnel qui me parle, qui me dit « Attends une minute, là. » Là, c'est mon fantasme, un jour, ça va arriver, là. Mais mon agent conversationnel va me reconnaître, va dire « Ah, c'est toi, Daniel Lafrenière, t'as telle affaire, voici ce que j'ai comme données. Tu t'informes de tel programme, de telle autre chose. Oui, tu aurais droit, voici comment faire. Tu vas te poser deux, trois questions. » Mais voici, donc, c'est réglé. C'est là qu'on devrait aller.
À l'inverse, là, l'IA pourrait nous aider, nous, à bien revoir nos contenus et à dire, là, on a noté que telle page, il y a des problèmes de compréhension dans tel paragraphe. On te suggère de le corriger de telle façon.
Parce qu'on s'entend-tu que les contenus sont rédigés en ce moment par des dynamiques qui ont voulu avoir des carrières de journaliste ou d'auteur puis qui viennent faire des contenus dans les sites de la Ville de Montréal. Ils font des contenus, des fois, qui sont un petit peu plus lourds que ce qu'on a de besoin comme information. Mais est-ce qu'on s'en va, donc, vers... Est-ce qu'on est en droit de se questionner à savoir où est-ce qu'on s'en va? Dans l'extrême, là, Québec.ca devient une base de données, de contenu, de matériel factuel.
C'est comme ça qu'on le voit.
Vraiment, hein?
Une base de données structurée, cohérente. Parce qu'une des choses qu'on se rend compte en rapatriant des sites, qu'on n'était pas pleinement conscient, c'est la quantité de doublons d'informations qu'on avait à l'échelle du gouvernement. C'est des sujets qui sont abordés par plein de sites web. Fait que c'est sûr que de ramener ça dans une seule plateforme, on élimine toutes sortes de doublons.
Puis en le faisant, en ramenant un site, vous ne vérifiez pas nécessairement s'il y a eu des doublons dans tout le reste. Ou ça crée des doublons avec du contenu qui est ailleurs. Mais là, l'IA, elle va le faire.
Ouais. Mais ça requiert une cohérence aussi interministérielle.
Oui.
Par exemple, comme le statut marital, à l'époque, c'était différent selon deux ministères à l'autre. Donc, pourtant, c'est le gouvernement. Fait que si je prends cet exemple-là, l'IA, l'intelligence artificielle va dire « Attends une minute, pick one.
» Mais c'est drôle parce qu'on est trop vieux dans l'industrie quand même, disons-le. Puis on se permet d'avoir cette vision-là de... Ça se peut que le Québec.ca n'ait plus la même forme physique, si on veut, ou forme numérique qu'elle a en ce moment. Mais quand j'ai partagé ce genre d'hypothèse-là, puis je suis surpris que vous ne soyez pas surpris, mais quand je l'ai partagé avec des plus jeunes, ils font comme « Mais non, le site classique va rester. »
Ouais.
Le site classique, il date de 2000, de notre époque à nous, où on se disait, on se faisait dire « Tiens, voilà le dépliant de mon entreprise, numérise-moi ça. »
C'est clair.
C'est du texte. Mais on s'en va vers quelque chose qui est largement différent. Là. Ben, c'est une conversation.
Moi, j'ose espérer que le formulaire va disparaître. C'est une patente complètement obsolète. Je vais loin, mais je l'ai écrit. Je m'assume totalement. Le site web va disparaître, mais il va rester. Le contenu va rester. Mais le formulaire va disparaître. On va avoir accès à des données. On va arrêter de te poser des questions pour lesquelles on a déjà des réponses. Ça va être une conversation. Le monde conversationnel, en plus en conversationnel, là, peu importe que ce soit de l'intelligence artificielle, ça va être ça, là. Va détecter que, il n'a pas compris, il a compris, son niveau de vocabulaire est X, son niveau de vocabulaire est Y. Je vais m'adapter en conséquence, je vais y parler. On a encore 50% d'analphabète fonctionnel au Québec. Avec l'IA, je peux parler verbalement sans faire quoi que ce soit, là.
Et mon IA connaît mon contexte.
Et mon IA connaît mon contexte.
Que je suis dans Schlager, que j'étais l'âge, que j'étais un distrait, que je sais pas quand on sortait mes poubelles.
Oui, puis que j'ai fait telle autre affaire, puis que j'adhère à tel programme, puis que j'ai telle autre chose. Elle va le savoir. Fait qu'imagine cette affaire-là là, où je converse verbalement. On parle plus de clavier, là. C'est complètement dépassé. Là. On a un clavier QWERTY qui est une désoptimisation pour qu'une dactylo fonctionne. C'est ça qu'on a aujourd'hui, pareil, en passant. Là.
Et la force que ça va amener, comme tu disais tantôt aussi, que pour un ministère ou pour une ville, c'est la transversalité. Moi, en tant qu'humain, j'ai affaire avec certains ministères pour certaines choses à certains moments.
J'ai affaire
mais
avec
chacun,
cette organisation.
Chacun des ministères ne se parle pas entre eux pour dire, bien, si tu as besoin de ça, tu vas là. C'est les 12 travaux d'Astérix encore. Mais là, on aurait... Mais c'est réminiscent de ta conférence de l'année dernière.
Oui.
Mais là, on risque d'avoir quelque chose qui va faire, attends, mon grand, je sais que tu habites dans tel endroit, que tu fais telle chose. Voici les informations dont tu as besoin à ce moment-ci dans ta vie.
C'est en plein ça, c'est le même concept. On parle du gouvernement. Je vais te laisser parler dans 30 secondes. C'est la même affaire chez Desjardins. Si j'ai de l'assurance, des placements, si j'ai ma caisse, si j'ai mes transactions...
Et on n'a pas ça en ce
moment. C'est la même affaire, là. Moi, je suis en affaire avec une entité, elle s'appelle Desjardins. Peu importe l'entreprise que tu veux.
Bien, j'allais dire qu'une partie de la complexité qui vient beaucoup des règlements, des lois. On peut faire un bout de chemin dans l'intégration des contenus, puis dans la cohérence des contenus, ouais. Mais il va quand même subsister certains obstacles.
Mais pourquoi les changer, ces lois-là, Martin?
Oui.
Des lois comme quoi? Comme quoi, les lois?
Bien, il y a des lois, par exemple, qui protègent les renseignements personnels d'une organisation, les lois constitutives.
En interministériel,
oui. Oui, c'est ça.
Et c'est bizarre, quand même.
Oui.
Ça reste l'organisation. Mais c'est vrai que c'est une peur qu'on a tous, que le ministère des Finances parle au ministère de la Santé, puis que, bon, tu perds un service parce que tu n'as pas été honnête avec l'un ou avec l'autre.
À tort ou à raison, il y a là un. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais il existe quand même des barrières à l'intégration qui ressemblent à ça. Mais je reviens à la notion de base de données de contenu. Tu sais, nous, sans le savoir, c'est ce qu'on se préparait à faire avec Québec.ca.
À l'époque?
À l'époque, ouais, parce que, tu sais, source unique de contenu vulgarisé, peut-être pas autant qu'on le souhaiterait, mais contenu quand même vulgarisé par rapport à ce qu'on connaissait avant, bien organisé, surtout organisé en fonction de la logique des usagers. Fait que sans le savoir, on est devenu prêt pour l'IA. Est-ce que le site web va rester? Mais ce qui va rester, c'est des gens qui réfléchissent des contenus, qui rédigent des contenus, qui doivent les classer de façon logique.
Voilà.
Parce que, on dit souvent que la qualité des données, c'est ce qui influence la performance des outils IA.
Bien sûr.
On le voit vraiment comme une base de données de.
C'est un gros actif parce que les données sont là. Fait que l'information est là, les procédures sont là. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les améliorer, les processus? C'est un autre sujet.
Ouais.
Mais au moins, déjà là, si on avait ça, on est proche de ça en passant.
Ouais.
C'est ceux qui ne seront pas contents, c'est ceux qui essayaient de passer déjà en 2018 des petits messages, des politiques, des trucs comme ça, des photos de politiciens qui coupent un ruban. Il n'y en aura plus. Je vais sur le site de Québec.ca pour avoir l'information dont j'ai besoin. Mais c'est vrai que le côté réglementation, à un moment donné, il faudra balancer entre est-ce qu'on a peur au gouvernement ou qu'est-ce qui donne un meilleur service aux citoyens? Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a un coût, de vie privée que je pense que des citoyens non plus qui ne voudraient pas voir.
C'est une grande question.
Les barrières à s'abolir.
C'est une très grande question qui a d'autres implications que l'intégration, les cloisonnements.
Oui, ça ne sera pas fait demain. Là.
Non.
Mais inévitablement, peut-être que l'IA, on n'aura peut-être pas le choix, encore une fois, à cause de l'IA qui, elle, va la faire, la transversalité. Elle va dire, tu me poses des questions sur le ministère des Finances en ce moment, by the way, il y a telle chose qui rentre en ligne de compte. L'information est là. Les silos vont s'abolir tout seuls parce qu'on va lui avoir donné l'information ou je vais le nourrir de mon rapport d'impôt, puis mes affaires, puis mes informations. Fait qu'elle va dire, tu l'as dit tantôt, la personnalisation va venir de ce que l'IA connaît de moi, puis qu'elle va aller chercher pour moi sur les ministères concernés.
Puis on veut que l'IA nous connaisse en passant. Les gens disent, je comprends les lois, je comprends ça très, très bien, Martin, je connais bien le gouvernement. Mais tu sais, c'est comme à l'époque, je parlais de personnalisation en 2010, on parlait de B2Me. Les gens, les organismes vont savoir trop sur nous autres. Hein, parce que, je veux dire, tu me racontes ta vie partout sur tous les médias sociaux. Là. Fait que là, tu sais, on se calme. Puis deux, quand tu parles avec le gouvernement ou une entreprise avec qui tu fais affaire depuis longtemps, tu t'attends à ce que tu me connaisses. Je m'attends à ce que tu me connaisses. Tu le sais, j'ai 3 enfants, j'en ai 4, non, j'ai une maison, 2. Tu devrais le savoir, je m'attends. Le citoyen, le client s'attend à ça. Ben, fait que là, à un moment donné, oui, il y a les lois, je compatis, il faut convaincre les avocats, plein de monde, blablabla. N'empêche, le citoyen, lui, ça, je ne dévoile aucun secret industriel. En 1989, il y avait un comité, on voulait faire le dossier citoyen au gouvernement du Québec, le citoyen fait affaire avec le gouvernement, pas tel ministère, tel ministère, tel organisme, fait affaire avec le gouvernement.
C'est ça qui est arrivé, c'est Service Québec, ça, non? C'était la source de...
Ça a inspiré une partie de Service Québec, assurément, mais déjà là, numérique, en 89, il y avait des maquettes, il y a des concepts qui avaient été imaginés.
En 89, ah oui.
En 89...
Des maquettes de quoi?
99, pas 89,
ouais, 99. C'est ça, j'allais dire, en 89, c'était un peu...
Excuse-moi, 99, précurseur. 99. N'empêche, ça fait 27 ans, il y avait cette vision-là. On y parvient graduellement. Québec.ca est une première instanciation de ça. Service Québec en est une autre. Puis là, l'IA.
Éventuellement, ça va converger. Moi, je pense que on voit Québec.ca comme une première étape aussi, dans l'espèce d'amélioration du virage.
Il y a une nouvelle étape.
Qui n'est pas terminée.
Jamais, en fait.
Ben non. puis, mais il y a tout l'espace transactionnel qui est le prolongement transactionnel de Québec.ca. Puis c'est un peu ça qu'on amène autour de la table. C'est toutes nos connaissances qu'on a accumulées au cours des 8 dernières années, bien, on la met à contribution pour améliorer tout ce qui peut être amélioré par prolongement.
Super intéressant. Messieurs, toujours fascinant de vous parler.
Merci de l'invitation.
J'en sors plus intelligent encore. Merci beaucoup.
Merci de l'invitation, Jean-François.
On se revoit au prochain Interface.
Oui.
Allez. Bye.
Merci. Force.